Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Depuis mars, nos vies ont radicalement changé, a déclaré depuis les jardins de la Maison-Blanche la première dame des États-Unis Melania Trump, en parlant mardi de l'impact du COVID-19 en Amérique au deuxième jour de la Convention républicaine. Elle a aussi vanté la réponse du président Donald Trump face à la pandémie, réponse très critiquée par ses adversaires. « Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul », a-t-elle déclaré, assurant que son mari ferait tout son possible pour venir à bout de cette épidémie qui a fait près de 180 000 morts aux États-Unis. Vantant les qualités de dirigeant du président Trump, elle a ajouté « Nous avons besoin que mon mari soit notre président pour 4 ans de plus. Ce n'est pas un homme politique traditionnel, il ne fait pas que parler, il obtient des résultats », a-t-elle affirmé. Tout comme son mari, Melania Trump a aussi dénoncé, je cite, « les attaques du camp démocrate et les ragots colportés par les médias ». Autre intervention, le secrétaire d'État Mike Pompeo, ainsi que Eric et Tiffany Trump, des enfants du président américain. À Kenosha, dans le Wisconsin, toujours aux États-Unis, la mère de Jacob Blake a déploré mardi la violence et la destruction, disant que son fils, qui se bat pour sa vie, serait très mécontent de cela, s'il savait. Elle a appelé au calme, les autorités redoutant de nouvelles manifestations tendues à travers le pays. Jacob Blake, un Africain-Américain de 29 ans, a été grièvement blessé par balle par un policier blanc et probablement paralysé à vie. Plus tôt dans la journée, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, avait déclaré l'état d'urgence et indiqué qu'il allait déployer des membres supplémentaires de la garde nationale afin d'empêcher les pillages et les incendies après que des bâtiments publics et des commerces ont été endommagés dans la nuit de lundi à mardi. L'Organisation internationale de la francophonie a suspendu mardi le Mali de ses instances après le coup d'État militaire du 18 août à Bamako contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, tandis que la junte poursuivait ses prises de contact avec les représentants des partenaires de ce pays en première ligne du combat contre le djihadisme. L'envoi dans les prochains jours d'une délégation de haut niveau à Bamako est envisagé par l'OIF. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante, a affirmé à l'AFP l'avocat de M. Gbagbo, Maître Claude Maintenon. En République démocratique du Congo, des militaires ont délogé mardi des partisans du président Félix Tshisekedi d'un important poste frontière à Kasumbalesa, dans le sud-est du pays, où ils étaient accusés d'avoir installé un bureau de douane illégal, a appris l'AFP de sources concordantes. Coronavirus, l'Afrique, près de 28 000 décès pour près de 1,2 million de cas, pourrait avoir passé le pic de la pandémie, a indiqué mardi l'OMS, tout en mettant à garde contre un relâchement qui faciliterait une seconde vague de contamination. Désormais, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse, a souligné la directrice régionale au cours d'une vidéoconférence. Bien que la pandémie continue de faire rage dans le monde, les dernières données hebdomadaires publiées par l'OMS montrent un ralentissement dans la plupart des régions, en particulier sur le continent américain. Ce ralentissement a été enregistré dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. L'armée israélienne a revendiqué mercredi matin des frappes aériennes nocturnes contre des positions du Hezbollah au Liban, le long de la frontière libano-israélienne, en réponse, dit-elle, à des tirs du mouvement chiite vers ses soldats. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. suite de nos informations, au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a modifié ce mardi le code électoral afin que les élections présidentielles et législatives de novembre soient validées, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l'ensemble du territoire. Les détails avec Eddy Issango.
Le nouveau code précise qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles entraînant l'impossibilité d'organiser des élections sur une partie du territoire national, l'élection est validée sur la base de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. 107 députés sur 121 ont voté pour le nouveau code. Le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, explique que cela va permettre d'avoir des élections apaisées à travers des instruments juridiques qui protègent les scrutins et les résultats qui vont en sortir. Mais dans les zones les plus instables, certains dénoncent une loi d'exclusion. Pour Aziz Diallo, député maire de Dori, dans le nord-est du Burkina, une région touchée par les violences, cela équivaut à dire à d'autres Burkinabés que leur sécurité n'a pas été assurée, mais aussi que les prochaines élections, ce n'est pas la peine qu'ils votent. Lors de la révision des listes électorales, 7% du territoire national n'a pas été couvert par les organes de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en raison de la menace sécuritaire, selon les chiffres officiels.
Au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé en pleine classe 7 élèves et leur enseignante dans un village de l'état de Kaduna, dans le nord du pays. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Les assaillants ont pris place à 2 ou 3 sur une vingtaine de motos et ils ont envahi le village de Damba Kasaya lundi en tirant l'air. Ils sont entrés dans le lycée Prince Academy où les élèves préparaient leurs examens de fin d'études, ont expliqué des villageois témoins de la scène, précisant que les assaillants ont enlevé les élèves et leurs enseignantes. Nous ne savons pas où ils les ont amenés, a indiqué Ilia Bawa, un habitant de Damba Kasaya. L'armée a été déployée dans le village, faisant fuir les derniers hommes armés qui terrorisaient les populations. Les enlèvements contre rançon sont courants au Nigeria, surtout dans l'état de Kaduna, où des gangs armés terrorisent les villageois, volent le bétail ou pillent les villages. En octobre 2019, des hommes en armes ont kidnappé 6 jeunes filles et 2 employés dans une école de cet état, avant de les relâcher quelques semaines plus tard.
Au Liberia, des milliers de femmes vêtues de noir ont manifesté mardi à Monrovia, la capitale. Elles accusent le gouvernement du président George Weah d'inaction face à la recrudescence des viols. Précision de Mohamedou Humfa.
À l'occasion de rassemblements marquant le début de 3 jours de mobilisation, les manifestantes, accompagnées de leurs enfants pour certaines, ont marché jusqu'au Parlement pour déposer une pétition contre les viols. Margaret Taylor, directrice de l'ONG Women Empowerment Network, œuvrant pour les droits et l'émancipation des femmes, explique que les femmes sont indignées face à la recrudescence des viols. Environ 600 cas ont été enregistrés entre juin et août, selon elle. Dans la pétition déposée au Parlement, les femmes demandent que les affaires de viol et les violences sexistes soient jugées rapidement. Elle demande aussi une amélioration de la prise en charge des victimes. Le Libéria a adopté ces dernières années des lois pour protéger les femmes, mais les manifestantes estiment que la justice reste lente, voire complaisante. Un rapport 2016 des Nations Unies expliquait cette situation par une multitude de facteurs. La faiblesse des institutions, la corruption, l'inertie du gouvernement, les contraintes financières, mais aussi le poids des traditions, la persistance des références patriarcales et des pressions sociales.
Les États-Unis ont appelé mardi les autorités russes à mener une enquête immédiate sur l'empoisonnement présumé du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Le point avec Abdulrahman Dia.
Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a exprimé la profonde préoccupation de Washington au sujet de la thèse de l'empoisonnement avancée par les médecins allemands après son transfert depuis la Russie en Allemagne où il est hospitalisé dans le coma. Si c'est avéré, les États-Unis soutiennent l'appel de l'Union européenne en faveur d'une enquête exhaustive et sont prêts à soutenir un tel effort, a-t-il ajouté. La famille de M. Navalny et le peuple russe mérite une enquête complète et transparente et que les responsables rendent des comptes, a-t-il poursuivi, souhaitant un rétablissement total à l'opposant. Un peu plus tôt, l'ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, avait estimé que les affirmations des médecins allemands rendaient nécessaire une enquête immédiate, complète et transparente de la part des autorités russes. En visite à Moscou mardi, le numéro 2 de la diplomatie américaine, Stephen Biegun, s'est aussi dit profondément préoccupé par l'état de santé de M. Navalny et par l'impact sur la société civile russe et de son empoisonnement présumé. Le Kremlin a jugé mardi hâtives les conclusions des médecins allemands ayant estimé qu'Alexei Navalny avait été empoisonné, assurant que c'était une piste parmi d'autres.
La Munich Echo, Nani Talani.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a finalement rouvert ses guichets au Mali ce mardi, rapporte Financial Afrique. Les banques ont accès à la compense depuis ce matin, informe une source interne de l'institution. Cette ouverture marque le retour du Mali dans la normalité bancaire après la décision momentanée de la BCAO de suspendre ses opérations pour sécuriser son personnel et les valeurs. Au Cameroun, le Bureau national de mise à niveau des entreprises sollicite 65 milliards de francs CFA pour assister 600 entreprises industrielles entre 2021 et 2023. Le dit bureau attend que le gouvernement valide ce plan stratégique triennal. À en croire Investir au Cameroun, l'État devrait aussi définitivement octroyer un statut juridique à l'institution afin de lui permettre de se déployer avec plus d'efficacité et de compétitivité sur le marché des entreprises et de l'économie camerounaise. Pour terminer, la RDC a accordé aux sociétés minières une dérogation indéfinie à l'interdiction d'exportation d'hydroxyde et de carbonate de cobalt, ainsi que de concentré d'étain, de tungstène et de tantale. Celle du concentré de cuivre reste à déterminer. Le Congo, premier producteur mondial de cobalt et plus grand producteur de cuivre d'Afrique, a interdit l'exportation de concentrés de cuivre et de cobalt en 2013 pour encourager les mineurs à transformer et raffiner le minerai dans le pays. Mais les autorités émettaient des dérogations, dont la plus récente devrait expirer samedi.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, direction le Maroc pour commencer. Cinq matchs du championnat de football prévus hier et aujourd'hui ont été reportés à cause d'une flambée de cas de contamination au coronavirus parmi les joueurs selon la Ligue marocaine de football. Parmi ces rencontres, le fameux derby de Casablanca opposant les deux rivaux historiques, le Wydad et le Raja. La Ligue n'a pas précisé le nombre de joueurs testés positifs, mais la presse locale dit recenser plus d'une centaine de footballeurs contaminés dans différentes divisions. Mi-août, trois matchs du championnat de première division ont été reportés pour les mêmes raisons. Ce championnat a repris fin juillet à huis clos. Lionel Messi a communiqué au FC Barcelone qu'il souhaite unilatéralement résilier son contrat. Les avocats de la superstar argentine de 33 ans ont fait parvenir au club un fax dans lequel ils annoncent la volonté de Messi de résilier son contrat unilatéralement en vertu de la clause qui a expiré le 10 juin dernier. Mais le club considère que son contrat est encore valide jusqu'au 30 juillet 2021. Il s'agit d'un premier pas vers l'ouverture d'une négociation pour le départ de la Pulga sur la base de sa clause de libération qui s'élève à 700 millions d'euros, a précisé Marca, le journal le plus vendu d'Espagne. D'après la presse espagnole, Messi s'est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, la semaine dernière et lui aurait indiqué qu'il se voyait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du club. Cette sortie de Messi intervient après la terrible déroute du Barça 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Ronaldinho a quitté hier Ascension à bord d'un vol privé à destination de Rio de Janeiro au lendemain de sa remise en liberté dans une affaire d'usage de passeport falsifié au Paraguay. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, et son frère Roberto ont été remis en liberté lundi après plus de 5 mois de détention au Paraguay. Les deux hommes avaient été arrêtés le 6 mars dans ce pays pour usage de faux documents officiels. L'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s'est vu infliger une amende de 90 000 dollars et a l'obligation d'informer la justice paraguayenne de tout changement d'adresse permanente. Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis pour agression, insulte par le tribunal de l'île grecque de Syros. Maguire a annoncé qu'il fait appel de sa condamnation. Absent au procès, l'international anglais a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, agression contre des représentants de l'État, lésions corporelles, insultes verbales et tentatives de corruption.
Le défenseur avait été arrêté la semaine dernière en Grèce, où il passait ses vacances suite à une bagarre avec des touristes et une agression contre des policiers en compagnie de son frère et d'un ami.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple continue ses consultations pour la mise en place d'une transition. Aujourd'hui, les Bamakois se posent beaucoup de questions sur le type de transition, sa durée et si elle doit être dirigée par un militaire. Kassim Traoré nous en dit plus sur les avis des Maliens à ce sujet.
Hier, c'était le ballet diplomatique à Kati. Le président du Comité national pour le salut du peuple a accordé des audiences aux ambassadeurs du Maroc, de la France, d'Algérie, alors qu'il avait reçu bien avant celui de la République fédérale de la Russie. À Bamako, c'est la mise en place de la transition qui domine les débats. Moro Diakité, enseignant.
Je veux que la transition soit assurée par les militaires, par ceux qui ont fait le coup d'État, parce qu'ils ont risqué leur vie pour cela. Et là où nous sommes, en réalité, nous nous faisons pas confiance aux hommes politiques maliens car ils ont montré leurs limites. La durée, je ne veux pas que les choses soient précipitées, qu'on leur donne le temps optimal pour qu'ils organisent les élections au moment voulu. Quand tout sera mis au point, donc on peut aller aux élections. Pour moi-même, on peut leur accorder le reste du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant.
Sabine Laba est une femme d'affaires à Bamako. Elle pense que les militaires au pouvoir ne sera pas une bonne chose.
Il faut mettre un civil à la tête du présidentiel. Parce que avec les civils, les Maliens peuvent revolter contre lui. Mais si c'est un militaire, les gens ont peur. S'il impose quelque chose, les gens auront peur toujours d'intervenir. Parce qu'ils vont dire que ce sont des militaires, ils ont des armes par-ci, par-là. Donc, le délai même présidentiel, ça c'est 5 ans. Déjà, il est arrivé à faire 2 ans. Donc, ça reste le 3e seulement. En 2023, on peut échanger.
Les associations et partis politiques, membres de la plateforme Force Nouvelle, optent pour une refondation du Mali. Maman Mariko, président des Forces Nouvelles.
Une transition politique qui posera les bases d'un Mali nouveau. Et cela doit se faire de concert avec toutes les sensibilités du pays. Et nous pensons aujourd'hui que les forces armées de sécurité, en étant impliquées avec le comité national de la... doit être impliquées au même titre que les partis politiques, au même titre que la société civile, pour qu'ensemble, nous puissions aller vers les bases d'un nouveau Mali avec une refondation.
La transition doit être une aubaine pour doter le pays de nouveaux textes pour aller vers une 4e république. C'est ce que pense Mohamed Ag Mohamed Al-Khamis.
Il serait préférable, je crois, de laisser un militaire diriger la transition. Parce que ce que nous constatons, et ça aussi, ça s'explique par des faits passés. À chaque fois qu'on choisit un civil, il y aura toujours des contestations après. Parce qu'il est très difficile de tomber sur une personne venant soit de la classe politique, soit de la société civile, qui fasse l'unanimité. Donc pour ce faire, il va falloir choisir quelqu'un, je crois, du corps militaire. Maintenant, le reste des postes peuvent être occupés et par des militaires et par des politiciens et par des gens venant de la société civile. En tout cas, la transition, elle doit être faite par toutes les couches, je crois, du pays.
C'est aussi le souhait des militaires qui sont au pouvoir, qui doivent recevoir dans la même optique les M5 RFP à Kati et qui contestaient le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta les deux derniers mois. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, c'est désormais admis par l'État, tous les électeurs potentiels ne pourront pas voter lors de la présidentielle et des législatives de novembre. Plusieurs régions sont affectées par les activités des groupes armés et le pays compte plus d'un million de déplacés internes. Face à cette réalité, le Parlement a modifié mardi le code électoral pour que l'élection présidentielle soit validée, même si elle n'arrive pas à se dérouler sur l'ensemble du territoire. Bagassi Koura a joint Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou.
Je trouve que la classe politique ressentait un besoin d'ajuster le code électoral pour tenir compte de la situation sécuritaire qui rend certaines parties du territoire inaccessible en vue de la tenue des élections à venir. Donc, des modifications ont été apportées afin, selon eux, de permettre juridiquement la tenue d'élections dans le contexte sécuritaire qui prévaut.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui pourront pas éventuellement voter?
On n'a pas une idée du nombre. On a juste un nombre de communes qui n'ont pas pu être visitées par les équipes d'enrôlement. Mais on n'a pas un nombre précis dans la mesure où le code électoral est en perpétuelle modification, enfin évolution, disons. Et on ne fait qu'ajouter généralement les nouveaux inscrits. Alors, je n'ai pas personnellement le nombre de gens qui ne pourront pas voter. Parce qu'il y a les communes qui n'ont pas pu être accédées. Il y a aussi les personnes qui ont été déplacées, mais qui ont été recensées ailleurs dans le fichier électoral.
On a eu cette réaction virulente du député Aziz Diallo qui dit, je cite, « Nous sommes aujourd'hui face à une véritable loi d'exclusion ». Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, c'est un aspect de cette loi. C'est-à-dire que personnellement, je n'étais pas d'accord pour la modification parce qu'elle consacre effectivement que certaines parties du territoire ne seront pas accessibles. Or, on aurait très bien pu laisser les textes en état, organiser les élections, et là où les gens peuvent venir voter, ils viendront le faire. Là où elles n'ont pas pu le faire, ça resterait comme ça. Dans la mesure où même dans le passé, on n'avait pas un quota spécial pour valider les élections en termes de nombre de participants, de taux de participation. Donc, je n'ai pas vraiment compris la raison de l'inscription dans la loi d'un texte pour dire que on tiendra l'élection là où seulement c'est possible. Je comprends très bien la réaction de Aziz Diallo, de théorie.
Est-ce que l'adoption de cette loi donne une garantie qu'il n'y aura pas de contestation si toutes les régions ne votent pas?
Non, ça ne peut pas donner de garantie. Au contraire, la loi donne la possibilité même de faire cette contestation. C'est pour ça que j'ai été étonné de voir l'unanimité, la quasi-unanimité, des députés opposition et majorité confondus.
Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu du gouvernement qui n'a pas pu régler la question de la sécurité?
Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que ça m'étonne que le président, le gouvernement et la majorité au Parlement aillent même dans ce sens parce que c'est la consécration que, sous leur mandat, le territoire a été amputé. Si ça n'avait pas été mis dans la loi, on aurait pu s'en tenir à l'état d'urgence, qu'il y ait une mesure transitoire. Mais le fait d'inscrire dans la loi, c'est la. Après, pendant la campagne, disons, ça va être mis à profit. Et peut-être que le gouvernement ou le président pense ne pas avoir un besoin de se prémunir de tel argument contre lui. Mais pour moi, c'est clair que ça consacre un aveu officiel que le territoire a été amputé.
L'analyste politique Siaka Koulibaly joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, l'annulation annoncée de la célébration du Magal des deux Raka de Saint-Louis a vivement marqué les esprits. Cet événement célèbre la prière effectuée par le guide des Mourites Serigne Touba Samba devant l'autorité coloniale le 5 septembre 1895. La non-tenue de cet événement fait craindre aux fidèles une remise en cause du grand Magal de Touba qui regroupe environ 4 millions de pèlerins chaque année. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Subtilement évoqué depuis plusieurs semaines par certaines autorités, l'annulation du grand Magal de Touba, où sa tenue en comité restreint est plus que jamais d'actualité, mais les fidèles s'abstiennent de tout commentaire. Moussa Ndiaye estime qu'un disciple doit juste se conformer à la décision du calife.
Talibé Mom. Les talibés doivent suivre les désirs du marabout, ce qui l'a poussé à annuler la manifestation des deux Raka de Saint-Louis et d'autres célébrations avant, pour aussi être la même cause pour le grand Magal de Touba, car il peut demander aux fidèles de célébrer ça chez eux. Mais dans tous les cas, seul le calife est apte à prendre cette décision. Nous les disciples, nous devons attendre l'avis de l'autorité religieuse pour éviter les confusions. On sait tous qu'il est impossible d'annuler le grand Magal de Touba, mais les conditions de célébration peuvent changer. Mais encore une fois, tout dépend du calife.
Dans la foulée du grand Magal de Touba, le Mauloud qui célèbre la naissance du prophète est aussi un événement majeur qui réunit tous les musulmans dans différentes villes religieuses du pays. Évoquer son annulation est aussi très délicat pour les croyants, même s'ils sont conscients du danger que représente la COVID-19. Pour Serigne Pape Fall, c'est un vrai dilemme.
Vous savez, quand ça touche l'aspect religieux, ça devient autre chose. Parce que la religion, c'est quelque chose qui relève du dogmatisme. Donc, on ne peut pas passer quelque chose qui se passe et qui est fêté dans tout le monde par tous les musulmans, comme le Mauloud, qui représente pour les musulmans un truc sacré, ça devient autre chose. On sait que la pandémie est là, on la vit. Mais pour les respects des mesures barrières aussi, ça devient deux contraintes à prendre en question et ça devient autre chose. C'est difficile de se positionner, même si on est musulman, c'est difficile.
La pratique de la religion peut être alliée à de nouvelles règles qui s'adaptent aux réalités imposées par la pandémie. C'est l'avis d'Abdulhad Gueye qui prône une réforme temporaire des célébrations religieuses.
Non, moi je pense que c'est le moment de mettre les égofanatismes un peu de côté. Parce que comparaison certes n'est pas raison, mais on sait ce qui s'est passé à la Mecque cette année. Vous avez vu le Hajj, comment ça s'est passé. Et même dans l'histoire contemporaine, on sait que le Hajj a été différé par plusieurs reprises à cause des raisons qui sont semblables à celle-ci.
Depuis le début de la pandémie, la majorité des célébrations religieuses a été annulée. Des experts médicaux et certaines autorités souhaitent que le grand Magal de Touba soit aussi annulé ou célébré avec de fortes restrictions pour éviter une contamination à grande échelle. Cependant, les fidèles et plusieurs guides religieux haussent le ton pour rappeler que la tenue ou non de la plus grande manifestation religieuse du Sénégal dépendait exclusivement du calife général des Mourides. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
L'été tire à sa fin ici aux États-Unis et de nombreuses familles se préparent à la reprise des classes. Toutefois, la menace du Covid-19 retarde la rentrée dans les écoles, collèges, lycées et universités. L'accès à l'enseignement à distance est l'un des défis que les parents doivent relever cette année. Reportage de Matt Dibble de VOA à Oakland, en Californie, repris ici par Lionel Gahim.
La pandémie du Covid-19 a contraint de nombreux établissements scolaires et universitaires à fermer les classes et transférer les cours en ligne. Au lycée technique d'Oakland, en Californie, les élèves font la queue pour emprunter des livres, mais aussi des ordinateurs portables pour pouvoir travailler à partir de la maison. Madame Saba Abdullah est à bord de son véhicule en compagnie de son enfant, élève en classe de première, qui a besoin d'un ordinateur.
Nous en avons un à la maison, mais c'est vraiment difficile parce que nous devons le partager à trois.
La circonscription scolaire d'Oakland estime que la moitié de ses 50 000 élèves ne dispose pas de la technologie nécessaire pour prendre part à l'enseignement à distance, un problème qui affecte de nombreuses écoles à travers les États-Unis. Sous le soleil torride du mois d'août, le personnel scolaire et des volontaires s'activent pour transférer les ordinateurs des temps de stockage vers les véhicules. Distanciation sociale oblige. Des ONG se sont jointes aux écoles d'Oakland pour réduire la fracture numérique qui persiste depuis des décennies. L'élève Tiana Grace est venue avec son père pour emprunter une borne Wi-Fi.
Parfois, l'Internet est un peu lent parce que nous sommes tous en train d'utiliser les ordinateurs.
La coalition d'ONG procède à de levées de fonds pour fournir des ordinateurs portables, des abonnements à Internet et appui technique aux élèves nécessiteux. Phil Williams, dont les enfants sont d'anciens élèves du lycée technique d'Oakland, aide les élèves à se connecter.
Je pense que se connecter au monde par Internet est aussi important que se nourrir de nos jours.
Peter Limata, enseignant en deuxième année primaire, craint de perdre contact avec ses élèves. Il a lancé l'heure du compte avec M. Limata sur Facebook Live, dans l'espoir que les familles pourront y accéder grâce à leurs smartphones. Alors que la rentrée approche, certains élèves ne prennent pas part à cette activité. Peut-être, ils n'ont pas moyen de se connecter, s'inquiète leur enseignant.
Is the difference between you having school and you not?
C'est la différence entre aller à l'école et ne pas y aller, ou encore la qualité de votre scolarisation, car vous avez parfois des élèves qui ne peuvent pas participer à la conversation en ligne. Lorsqu'ils essaient la vidéo ou tout juste de parler, la connexion lâche parce qu'elle n'est pas assez puissante.
Alors que la nouvelle année scolaire approche à grands pas, l'accès aux technologies de la communication constitue un défi que les parents en enseignant tentent de relever.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.